Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie, à Pompéi, en 79 de notre ère, quand l'éruption du Vésuve a rayé de la carte toute une ville et ses habitants.
Au cœur de l'histoire.
C'est le son de l'Etna en pleine éruption. On entend le bruit du vent, le souffle des fumées. Des cendres et de la lave sont projetées en hauteur. Il existe une étrange fascination pour les volcans qui fait qu'à chaque fois que l'un d'entre eux se réveille, nous nous précipitons pour avoir des images, pour observer ces phénomènes. C'est une curiosité en réalité très ancienne. Une curiosité que l'on peut suivre déjà au 3e siècle de notre ère, quand un historien, Dion Cassius, a décidé de rendre compte d'un événement formidable de l'Antiquité, la destruction de Pompéi. Voici comment il décrit la frayeur des habitants de l'époque.
La nuit succéda au jour et les ténèbres à la lumière. Les uns s'imaginaient que les géants ressuscitaient. On voyait dans la fumée de nombreux fantômes qui les représentaient. Et de plus, on entendait un bruit de trompette. Les autres, que le monde entier allait s'abîmer dans le chaos ou dans le feu. Aussi les uns s'enfuyaient-ils de leurs maisons dans les rues, les autres des rues dans leurs maisons, de la mer sur la terre et de la terre sur la mer, en proie à la terreur et regardant tout ce qui était loin d'eux comme plus sûr que l'état présent. En même temps, une prodigieuse quantité de cendres se souleva et remplit la terre, la mer et l'air.
Dion Cassius a voulu rendre spectaculaire l'explosion du Vésuve et la destruction de Pompéi. Il y a introduit des figures mythiques, rendant compte ainsi des fantasmes qui ont circulé dès l'Antiquité sur ce qui s'est passé réellement à Pompéi. Mais que s'est-il vraiment passé aux dernières heures dans cette ville? Comment l'éruption a-t-elle détruit à la fois la cité et ses habitants? Qui a survécu? Pour le découvrir, plongeons au cœur de l'histoire de l'Empire romain. Notre histoire commence en 79, après la naissance de Jésus-Christ. On n'est pas absolument certain du jour, mais la plupart des auteurs pensent que c'est le 24 octobre. Nous sommes dans une villa, dans la baie de Naples, dans une cité qui aujourd'hui n'existe plus, Misène. Il y a une vue somptueuse sur toute la baie. C'est un homme important qui habite cette villa. Il s'appelle Pline. On le surnommera plus tard Pline l'Ancien. C'est un savant qui a eu la plus grande éducation, un passionné de sciences naturelles, d'astronomie, d'anthropologie, de psychologie. Il s'intéresse aussi à l'art du métal. Il a eu une magnifique carrière administrative. Il a été administrateur de provinces entières, comme la Gaule, où il est passé plusieurs années. Depuis, il est installé dans cet espace que constitue la baie de Naples, que l'on appelle alors Baïa. À Baïa, il est le gouverneur de toute la flotte militaire du sud de l'Italie. Pline l'Ancien n'est donc pas n'importe qui. Et dans sa villa, il a accueilli son neveu. Alors, lui aussi sera plus tard appelé Pline le Jeune. Mais à l'époque, il est tout simplement Caelius, le neveu du célèbre gouverneur militaire de la région. Caelius est là avec sa mère, la sœur de Pline l'Ancien, et ce sont eux qui, un matin, vers 10h, vont nous faire découvrir avec surprise ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. C'est la mère qui a donné l'alerte. Elle a fait prévenir par un serviteur son frère, Pline l'Ancien, puis son jeune fils. Et ensemble, ils découvrent ce que Pline le Jeune écrira plus tard.
À l'endroit d'où on pouvait le mieux contempler le phénomène en question, une nuée se formait, car ayant l'aspect et la forme d'un arbre et faisant penser surtout à un pin. Car après s'être dressée à la manière d'un tronc fort allongé, elle déployait comme des rameaux, ayant été d'abord, je suppose, portée en haut par la colonne d'air au moment où elle avait pris naissance. Puis, cette colonne étant retombée, abandonnée à elle-même ou cédant à son propre poids, elle s'évanouissait en s'élargissant. Par endroits, elle était d'un blanc brillant, ailleurs poussiéreuse et tachetée par l'effet de la terre et de la cendre qu'elle avait emportée.
Pline le Jeune est le seul témoin direct à avoir laissé un témoignage de l'éruption. Il se trouve donc de l'autre côté de la baie et peut distinguer avec frayeur et fascination l'étrange colonne de fumée et de feu qui est en train de se déployer face à lui. « Comme un pin parasol », dit-il. Quelle hauteur fait-il, ce pin ? Entre 24 et 35 kilomètres de hauteur, estiment aujourd'hui les spécialistes de la vulcanologie. C'est véritablement une montagne de poussière qui s'élève. Pour l'instant, tout reste suspendu dans l'air. Cette colonne de fumée tend à créer sa propre ombre, à obscurcir un peu la lumière. D'où l'impression que la nuit est en train de tomber alors que l'on est encore le matin. Pour Pline l'Ancien, cet homme à l'esprit scientifique, presque un savant pour son époque, le phénomène est fascinant. Deux réflexes se mêlent en lui. D'abord la curiosité, et ensuite la nécessité en tant que chef militaire, que responsable de la flotte, de porter éventuellement secours aux éventuelles personnes en danger. Il ordonne donc que l'on mette à l'eau un navire relativement mobile, qui peut se déplacer avec une dizaine de rameurs et à la voile. C'est avec cette embarcation, accompagné de deux esclaves domestiques qui devront prendre des notes, qu'il s'embarque. Il propose à son jeune Caelius, à son neveu, de venir avec lui. Caelius hésite, mais finalement, comme il a du travail, il préfère rester à la villa. Son oncle va donc partir à l'aventure. Pline l'Ancien ordonne à ses hommes de foncer droit vers la colonne de fumée. Ils vont naviguer ainsi pendant quelques temps, croiser des embarcations qui, au contraire, partent en sens inverse, les prévenant d'un danger. Parvenu à peu près au milieu de la baie, le pilote du navire a une hésitation. Il conseille à Pline de faire demi-tour et de rentrer. La mer commence à grossir, le danger menace. Mais Pline se moque de lui, il lui répond que la fortune sourit au courage et lui ordonne de partir en diagonale, en direction de la villa d'un de ses amis, Pompeianus. C'est là qu'il compte accoster et s'assurer que tout va bien pour cette personne qu'il apprécie tant. Après une rapide navigation, le navire accoste à la villa de Pompeianus. Pline retrouve son ami. Les deux hommes s'embrassent, ils sont tout à la joie de se retrouver. Pompeianus était sur le rivage précisément, il était en train d'affréter ses bateaux pour partir quand le vent aurait été favorable. Malheureusement, le vent demeure contraire. Les deux hommes résolvent donc de passer la journée dans la villa et le soir, ils dînent ensemble. C'est à ce moment-là qu'ils remarquent des lumières au sommet du Vésuve.
Pendant ce temps, le sommet du mont Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Mon oncle répétait que des foyers laissés allumés par des paysans dans la nuit hâtive et des villas abandonnées brûlaient dans la solitude, voulant par la calmer les craintes.
Ces flammes, en réalité, étaient sans doute déclenchées par la lave qui continuait de se propager. Après une nuit relativement courte, au lever du jour, les deux hommes tiennent conseil. Pompeianus veut vraiment partir, mais la mer est grosse. En effet, les nombreux tremblements de terre qui surviennent agitent les eaux. Pline et sa suite décident de descendre avec leur ami sur le rivage et de s'assurer, aussitôt qu'ils le pourront, de pouvoir prendre la mer. Pour prendre son mal en patience, Pline l'Ancien fait installer un linge sur le sol, s'y assoit puis s'allonge, attendant que la mer se calme. Ce dont il ne se rend pas compte, c'est que des gaz délétères ont déjà commencé à se répandre sur le sol. Alors que ses amis restés debout respirent un air sain, lui commence à être intoxiqué par les vapeurs de soufre. Bientôt, on résout de partir par la terre pour échapper au danger. Il faut imaginer tous ces Romains qui ont attaché sur leur tête des coussins pour éviter les pierres ponces qui commencent déjà à retomber dans l'atmosphère. Pline l'Ancien essaye de se relever, mais il n'y parvient pas. Deux esclaves essayent de lui porter secours, mais il retombe, s'allonge. On doit le constater, l'homme est mort. Il restera là, sur ce rivage, bientôt recouvert de cendres. Quelques jours plus tard, sa famille viendra chercher sa dépouille et le retrouvera presque dans la même pose, comme endormi, dira plus tard Pline le Jeune en racontant l'histoire de son oncle. Car Pline le jeune, Caelius, lui, a survécu. Il est resté à la villa, puis a pris la décision de quitter cette demeure pour aller se réfugier encore plus loin, à la campagne. Son équipe n'avait pas négligé de prendre des vivres, et elle n'a regagné le domicile que 3 ou 4 jours après, quand l'atmosphère s'est véritablement dégagée. Lui aussi a tremblé de peur, car il y a eu de violentes secousses terrestres, des tremblements de terre si importants qu'ils faisaient bouger les wagons sur leurs roues. On imagine ce qu'ont éprouvé les habitants de Pompéi. Car, bien sûr, il y avait eu des séismes, de petites secousses, des tremblements de terre qui, encore en 62 après Jésus-Christ, avaient endommagé la ville. Mais aucune éruption de cette ampleur n'était survenue depuis 1700 ans. Ils croyaient simplement que le volcan était éteint et que donc, ils pouvaient vivre tranquille. Pompéi n'était pas n'importe quelle ville. C'était une cité ancienne et florissante. Une cité qui avait la stabilité, la richesse, un paysage magnifique sur les pentes du Vésuve. Une cité qui était alimentée par son propre aqueduc, nous y reviendrons. Une cité fondée par les Grecs, visitée par les Étrusques et finalement colonisée par les Romains. Une cité où chaque génération a ajouté une pierre à l'opulence. On y cultive des fruits, on y cultive de la vigne, on y cultive des olives. C'est une sorte de paradis terrestre. Les décors riches des grandes demeures, qui encore aujourd'hui se retrouvent au musée de Naples, méritent le détour. Les habitants de Pompéi ne sont pas très différents du reste de l'Empire romain. Ce sont des fanatiques des jeux du cirque. Il y a d'ailleurs un magnifique édifice que l'on peut encore voir aujourd'hui. Précisément, à cause des jeux du cirque éclate en 59 une rixe. En sortant de combats de gladiateurs, elle oppose les habitants de Pompéi à ceux d'une ville voisine, ceux de Nocera, et se solde par plusieurs morts et blessés, au point qu'il faut interdire les combats de gladiateurs à Pompéi. 20 ans plus tard, la cité a retrouvé son lustre. Oh, bien sûr, on prétend que sa vigne est concurrencée par les vins gaulois moins chers, mais il n'empêche, elle conserve son éclat. Pourtant, en 79, quelques changements surviennent imperceptiblement d'abord. On constate par exemple que le boulanger d'Herculanum a ses meules et son four qui ont été endommagés. Il doit les réparer et en attendant que le mortier sèche, il travaille au ralenti. De la même manière, le grand aqueduc qui relie toutes les villes autour du Vésuve a lui aussi fait l'objet de fissures. On doit envoyer des fonctionnaires impériaux pour le réparer. Ailleurs, des toitures ont souffert, des murs se fissurent. Certaines maisons se sont même effondrées. Les bâtiments officiels, les temples et le forum ont aussi dû être réparés dans les mois qui précèdent. On devine que ces petits séismes font écho à ce qui s'est passé en 62 de notre ère, quand avait déjà eu lieu une première forte secousse. Mais cette fois, les événements ne s'arrêtent pas là. À 10h du matin donc, a commencé l'éruption. Une formidable secousse qui a envoyé en l'air, à plus de 30 km de hauteur, de la cendre, de la lave, de la terre, des morceaux de pierre ponce. À partir de 13h, la pluie de ponce et de cendre commence à descendre, lentement, sur Pompéi, mais aussi sur les autres villages de la région, sur Nocera, sur Herculanum. Il faut attendre plusieurs jours pour que l'atmosphère soit finalement dégagée de toutes les particules en suspension. Pendant tout ce temps, la chute de débris est continue. Cela commence par les éléments les plus lourds, cela finira par les plus volatiles. Personne dans l'Empire romain n'avait eu à subir un phénomène identique. Personne ne se doute que l'air est en train de devenir doucement irrespirable, que ces petites molécules de terre qui flottent en suspension, ces petites cendres, rentrent progressivement dans les poumons des habitants, que ce sont elles qui lentement les asphyxient. Beaucoup n'ont aucune conscience de cela et ne pensent même pas à mettre un linge pour se protéger les narines ou la bouche. c'est la surprise et la stupéfaction qui règnent tout de suite quand on voit le volcan briser son dôme et éclater dans l'atmosphère. Une panique incroyable. Que faut-il faire ? Certains pensent qu'il faut partir le plus vite possible. Et on l'a vu. Ils se précipitent vers les quais, prennent les premières embarcations et s'éloignent, si possible, de la côte. Mais beaucoup de bateaux ne s'éloignent pas beaucoup. Ils restent dans la baie et donc sont susceptibles, à un moment ou à un autre, d'avoir, eux aussi, à souffrir des cendres qui redescendent. D'autres, au contraire, pensent que le meilleur abri est de rentrer chez soi et de s'y calfeutrer. Ils ne se doutent pas que bientôt, c'est un mur de cendres qui va progressivement obstruer les portes, les fenêtres et même engloutir certaines maisons. D'autres, enfin, vont avoir des attitudes contradictoires, se cacher d'abord, tenter de s'enfuir plus tard. Plusieurs indices archéologiques nous montrent la surprise vécue par les habitants. Dans le four d'une boulangerie de Pompéi, par exemple, 80 pains brûlés ont été découverts. Sans doute le boulanger a-t-il fui en abandonnant sa cuisson. Dans la maison dite du forgeron, on a retrouvé quelques instruments laissés à l'abandon qui font penser que le maître des lieux et ses aides ont pris l'essentiel et ont laissé le superflu, c'est-à-dire jusqu'à leurs instruments de travail. Plus fascinant encore, dans une villa, la Villa des Peintres, on a découvert des œuvres qui ont été abandonnées en l'état, avec même des éclaboussures de pigments sur les murs qui doivent manifester les tremblements de terre qui ont eu lieu. On a même trouvé les pots avec les pinceaux tels quels. Tout le monde, aux premières secousses, avait fui et abandonné la place. Ce qu'il y a de plus incroyable avec Pompéi, c'est que quand on l'a redécouverte à partir du XVIIIe siècle, on a pu reconstituer les existences des habitants. Tenez, dans une pièce reculée d'une grande villa, on a retrouvé en 1975 les corps de 12 personnes. Tous avaient une malformation identique de la colonne vertébrale, signe qu'ils appartenaient à la même famille. Ils étaient rassemblés, là, trois générations, avec des serviteurs. Parmi les personnes, une jeune femme enceinte. Il s'agissait sans doute d'une impossibilité pour cette femme de fuir et donc ses proches ont décidé de rester avec elle en se protégeant le visage, en essayant aussi de calfeutrer les murs et les portes pour que la cendre n'entre pas dans la maison. Mais finalement, on devine que sous la pression, le toit s'est effondré et que tous sont morts dans cette atmosphère confinée. Pire encore, dans la ville d'Herculanum, on a découvert en 2002, non loin du rivage, dans ce qui devait être des abris portuaires, 300 corps regroupés. Ces personnes avaient espéré rester là, dans ces hangars, pour se protéger de la nuit et dormir. Elles ne savaient pas, elles ne pouvaient pas prévoir qu'il y aurait un autre phénomène cataclysmique. Une nuée ardente, une onde de chaleur partie du sommet du Vésuve qui a descendu et ravagé la pente, portant jusqu'à 1500 degrés, la température de l'air, et donc cuisant instantanément les pauvres malheureux qui s'étaient réfugiés près du rivage en pensant avoir échappé à la mort sous la cendre. La poussière, la chaleur sont les différentes composantes qui ont fait l'apocalypse de Pompéi et d'Herculanum. La poussière fut telle d'ailleurs qu'elle est restée de mémoire dans l'Empire romain. Dion Cassius en rend encore compte en parlant de Pompéi et en disant qu'elle s'est répandue presque partout, bien au-delà de la région de Baïa, bien au-delà de la région de Naples.
Enfin, la poussière fut telle qu'il en pénétra jusqu'en Afrique, en Syrie, en Égypte et même jusque dans Rome, qu'elle obscurcit l'air au-dessus de cette ville et couvrit le soleil. Elle y fit naître une grande crainte qui dura plusieurs jours, car on ignorait ce qui était arrivé et on ne pouvait se le figurer. On s'imaginait que tout était bouleversé de haut en bas, que le soleil allait disparaître dans la terre, et la terre s'élançait au ciel.
Alors bien sûr, un phénomène d'une telle ampleur ne pouvait pas laisser indifférent aussi bien l'empereur que les plus riches habitants de la Rome antique. Dès cette époque déjà, une solidarité internationale existait en cas de catastrophe naturelle. Mais cette fois, l'événement était si considérable, nous explique Dion, que l'empereur voulut agir seul.
Il envoya en Campanie deux anciens consuls pour réorganiser la région. Il offrit aux habitants de l'argent et en particulier les biens de ceux qui étaient morts sans héritier. Il n'accepta personnellement aucun don, ni de simples particuliers, ni d'une cité ou d'un roi, alors que beaucoup lui avaient fait des dons et lui en avaient promis, mais restaura la région exclusivement sur ses biens propres.
La mémoire de la catastrophe s'est donc étendue bien au-delà de la région de Baïa, de la région de Naples. Elle a concerné l'intégralité de l'Empire romain. Grâce aux sources antiques, finalement, on a pu aussi se souvenir de l'attitude et de la surprise qu'avaient pu vivre les habitants de Pompéi au moment de cette catastrophe. Si bien que Pompéi est devenu un lieu assez particulier, un lieu sur lequel chacun a projeté sa vision du monde à travers la destruction de la ville. Et cela a commencé dès la redécouverte du site au début du XVIIe siècle. Des voyageurs y sont venus, ils ont fait des descriptions et ils ont eu, pour certains, des conduites étonnantes. Prenons un voyageur français qui s'appelle Latapy. Il arrive dans les années 1750 dans la région de Pompéi et il nous explique qu'il veut composer son propre petit muséum personnel en empruntant sur le site des éléments. Il est un des rares à avouer avoir volé à Pompéi un morceau de squelette.
Lorsqu'on est au bas du petit escalier, on voit à l'entrée de la cave sur des tablettes quantité d'ossements qui diminuent continuellement parce que certaines personnes veulent en emporter des morceaux s'il leur est possible. Ce que je n'ai pas manqué de faire afin de posséder dans mon petit muséum un os qui est plus de 17 siècles.
Pour Latapy et les naturalistes du XVIIIe siècle, ce qui importait, c'était la vérité de l'objet. Viendra ensuite le christianisme, qui regardera Pompéi comme un lieu de débauche, un lieu où l'on a trouvé des statues de Priape avec des pénis énormes, où l'on a trouvé aussi une femme dans une salle avec un gladiateur qui faisait-il. On oubliera rapidement que dans la même salle, il y avait d'autres personnages qui avaient été sortis par les archéologues. Les archéologues, d'ailleurs, comprendront que les espaces laissés vides dans les fouilles sont ceux des corps et progressivement les rempliront de plâtre, donnant ainsi à voir des êtres humains dans leur dernier instant de vie. Notre époque regardera ces moulages sans excès de spiritualité. Elle considérera ces restes comme des éléments humains, comme les traces de nos ancêtres, comme un élément de mémoire essentiel pour se souvenir d'une catastrophe, mais aussi comme des reliques qui ne sont pas innocentes. Il deviendra intolérable progressivement à partir des années 70 de laisser ces quasi-sculptures à ciel ouvert. Il faudra les traiter comme des corps à placer dans des sépultures. Pompéi devient ainsi le symbole de la destruction des hommes, pétrifié en un clin d'œil, comme par la mort atomique. Ce symbole restera très important. Il explique aussi pourquoi cette ville, en tant que produit d'une catastrophe naturelle, induit dans notre réflexion une deuxième inquiétude. Et si l'humanité pouvait demain, à cause de ses errements, à cause du réchauffement climatique ou d'une autre catastrophe, disparaître d'un coup? C'est cette peur et cet appel à la vigilance que nous entendons à chaque fois que résonne en nous ce mot « Pompéi ». Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.